Molière.
Parce qu'il a traversé les siècles avec la même acuité, parce que l'éclat de son rire ne s'est jamais terni, ni l'actualité de son propos démenti, le théâtre de Molière demeure une source inépuisable d'inspiration et d'admiration.
On ne le respecte pas parce que c'est notre figure. On le respecte parce que ça fait encore marrer les salles. Molière, sa plume est tellement dingue.
Sais-tu bien comment il faut faire pour dire un U ?
D'y voir U pour voir.
U, hop !
Ben, qu'est-ce que tu fais quand tu dis U ?
Je dis U. Mais oui, mais... Quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais ?
Je fais ce que vous me dites.
Oh ! C'est extraordinaire.
Quelle nouvelle ?
Le petit chat est mort.
Le petit chat est mort. Tout le monde le sait depuis 400 ans. On peut pas tricher avec ça. Les gens le savent.
Il est l'un des plus grands auteurs de l'histoire du théâtre. Une star, et ce, depuis près de 400 ans. De son temps déjà, il était la coqueluche des journaux et faisait salle comble à la ville comme à la cour. Pour avoir révolutionné le jeu de l'acteur, pour avoir porté sur le théâtre les sujets de son temps, comme la question religieuse, la violence sociale ou l'éducation des femmes, Molière a été autant admiré qu'attaqué.
Le choc, ça a été ça. Molière a fait monter le monde contemporain sur le théâtre.
Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe et la toute-puissance.
Il est secoué par son époque.
Le triomphe de Molière est indissociable de la période la plus brillante du règne de Louis XIV, celle des amours et des plaisirs d'un jeune roi, fou de danse, de théâtre et de musique. Leur relation qui mêle la politique à l'artistique, l'admiration à la stratégie, fascine par sa richesse et sa complexité.
L'œuvre de Molière, elle ne serait pas du tout la même s'il n'y avait pas eu Louis XIV.
Je crois que l'un et l'autre se sont parfaitement utilisés.
Il a un roi qui sait ce que c'est que l'art et qui sait même comment utiliser tout cela pour son pouvoir.
À la fois dévoué au divertissement de Louis XIV et d'une grande radicalité dans son écriture, à l'aise sur les planches comme dans les salons, chef de troupe, comédien et auteur à une époque où le politique et l'artistique se mêlent inextricablement, Molière apparaît protéiforme, complexe, voire contradictoire. Si celui que l'on surnommait le peintre semble ainsi résister à tout portrait, c'est peut-être parce que c'est encore et toujours par son théâtre qu'il se laisse le mieux approcher. Tous les jours, les bals, ballets, comédies, musique et autres divertissements ont succédé les uns aux autres, écrit Colbert à propos des festivités d'octobre 1663. Elle se déroule à Versailles, qui n'est encore que le petit relais de chasse hérité de Louis XIII. C'est la première fois que Louis XIV accompagne son séjour d'une courte saison théâtrale, et c'est un véritable festival Molière. La troupe donne pas moins de 7 pièces, dont une nouveauté, l'Impromptu de Versailles. Dans cette comédie inédite, écrite en à peine 8 jours, Molière joue son propre rôle. Avec un indéniable génie, mais aussi une certaine audace, il se met en scène au milieu de sa troupe, répétant dans l'urgence une pièce soi-disant commandée par le roi lui-même.
Allons donc, messieurs et mesdames, et ne voulez-vous pas tous venir ici ? Monsieur de la Grange. Mademoiselle Dupas.
Eh bien.
Mademoiselle Béjart.
Qu'y a-t-il?
Mademoiselle Debry.
Que veut-on?
Tête bleue, messieurs, me voulez-vous faire enrager aujourd'hui?
Mais que voulez-vous qu'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles.
Laissez-moi raconter mon sentiment. Ce que tu m'as fait, traître.
Ce qui est intéressant, c'est que Molière a une idée formidable qui est celle de faire reposer tout ça sur le principe du spectacle empêché. Les comédiens entrent en scène et ils ne sont pas prêts. Molière les appelle, ils ne veulent pas sortir de la coulisse. Et pourquoi ils ne veulent pas sortir de la coulisse? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre leur texte et que le roi, la commande du roi a été si pressante qu'ils ne peuvent pas jouer devant le roi.
Ah, les étranges animaux à conduire que des comédiens.
Eh bien, nous voilà.
Que prétendez-vous faire?
Quelle est votre pensée?
De quoi est-il question?
En vérité, le roi est dans la salle, il assiste à ce spectacle dans lequel on dit qu'on ne peut pas jouer devant le roi. C'est un jeu de miroir absolument étonnant.
C'est une chose qu'il va constamment mettre en scène, d'ailleurs, et là, c'est ce qu'il fait, dans toutes ses pièces données au roi, cette idée qu'il obéit au roi, il se met en danger, il se met en difficulté. D'un côté, il surjoue l'obéissance à une commande impossible et le fait qu'il arrive à remplir cette commande.
Les rois n'aiment rien tant qu'une prompte obéissance et ne se plaisent point du tout à trouver des obstacles. Les choses ne sont bonnes que dans le temps qu'ils les souhaitent, et leur en vouloir reculer le divertissement est en ôter pour eux toute la grâce. Ils veulent des plaisirs qui ne se fassent point attendre. Nous ne sommes que pour leur plaire.
Ce que nous révèle cette pièce, c'est qu'effectivement, il y a un rapport privilégié qui depuis peu s'est instauré entre le roi Louis XIV et Molière. Molière est devenu un de ses artistes non seulement préférés, mais celui auquel il va avoir le plus en plus recours. Et quand on est un artiste de Louis XIV, on sait que Louis XIV ne veut pas attendre. Et ça, c'est un leitmotiv qu'on retrouve à peu près pour tout, y compris pour les bâtiments du roi. C'est au cœur de la politique artistique de Louis XIV, ce sort de mécénat qui s'instaure à peu près à la même époque, et c'est au cœur de la relation entre Molière et Louis XIV.
En cette année 1663, le nom de Molière est sur toutes les lèvres, qu'il s'agisse de le louer ou de le condamner. S'il a contre lui une puissante cabale qui accuse son théâtre d'obscénité et d'impiété, ses pièces font rire Louis XIV aux éclats. Dans l'impromptu de Versailles, Molière défend son théâtre et son public.
Et lorsqu'on attaque une pièce qui a eu du succès, n'est-ce pas attaquer plutôt le jugement de ceux qui l'ont approuvé que l'art de celui qui l'a faite?
Avec une intelligence redoutable, il affirme ainsi: m'attaquer, c'est attaquer le goût du roi et celui de la cour. Imparable. Tout Molière est là. L'auteur, le comédien, le serviteur du roi, le directeur de troupe, l'homme attaqué. L'impromptu de Versailles est un autoportrait porté sur la scène.
Dans l'impromptu, il y a évidemment un portrait de Molière qu'on n'a nulle part ailleurs. Et ce portrait, c'est lui-même qui le fait. Il donne une image de lui qui vaut toutes les biographies. On le voit diriger, on le voit intervenir, et on le voit seul. Et ça, c'est extrêmement touchant parce que l'exercice de mise en scène est aussi un exercice de solitude, même si on dirige une troupe.
Oh là là, quel métier!
Il nous parle aussi de la solitude de l'auteur. Il est les deux. Et il nous parle aussi de la question de l'artiste face au pouvoir, parce que quand même, il se met en scène attendant le roi, et on voit quand même à quel point la réception que va faire le roi de l'œuvre qu'ils vont présenter est décisive.
Donc ce patron-là, face à cette complexité-là, des stratégies, de la politique, du financier, de l'artistique, etc., de la technique, voilà, toutes ces choses-là, c'est ça qui est intéressant.
C'est une pièce extrêmement touchante, extrêmement particulière et qui nous fait rentrer dans l'intimité non seulement de Molière, mais de cette troupe de manière très concrète.
Ne comptez-vous pour rien l'inquiétude d'un succès qui ne regarde que moi seul? Et pensez-vous que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci, que d'entreprendre de faire rire des personnes qui nous impriment le respect et ne rient que quand ils veulent? Est-il auteur qui ne doivent trembler lorsqu'il en vient à cette épreuve?
Il vit dans une contrainte permanente. Voilà. Dans une contrainte permanente, double. Il est entre le marteau et l'enclume, il est entre sa troupe et le roi. Et donc il y avait cet œil-là, voilà. Ces deux mains qui pouvaient se lever pour applaudir ou qui pouvaient ne pas se lever. Personne n'applaudissait avant le roi. Hein.
Avec l'impromptu de Versailles, Molière se présente comme entièrement dévoué au divertissement de Louis XIV. Il le fait également apparaître en souverain magnanime et généreux, prouvant ainsi qu'il sait faire preuve d'un art subtil de l'éloge.
Je viens pour vous dire qu'on a dit au roi l'embarras où vous vous trouviez et que par une bonté toute particulière, il remet votre nouvelle comédie à une autre fois et se contente pour aujourd'hui de la première que vous pourrez donner.
Le roi nous fait la plus grande grâce du monde de nous donner du temps pour ce qu'il avait souhaité. Et nous allons tous le remercier des extrêmes bontés qu'il nous fait paraître.
Molière, c'est une audace permanente, mais je ne sais pas si elle est toujours complètement consciente. Il y a chez Molière un tel goût du jeu, un tel goût du théâtre, que ce goût-là lui donne une certaine inconscience, et je pense que cette inconscience paye. Il n'y a aucune irrévérence à l'égard du roi, il est beaucoup plus malin que ça, et il y a beaucoup d'humour sur lui-même aussi, et c'est sa force.
L'effet de réel de l'impromptu de Versailles, couplé à l'humour de Molière, fait merveille, et Louis XIV est une nouvelle fois conquis. En cette année 1663, à la cour comme dans les salons ou dans les gazettes, il n'est plus question que de Molière. Il a 41 ans et il a révolutionné le théâtre. Il faut remonter 4 ans en arrière pour comprendre comment Molière s'est imposé à la ville avant de séduire la cour et le roi. Nous sommes en 1659 et sa troupe vient d'obtenir la protection non pas de Louis XIV, mais de son frère Philippe, futur duc d'Orléans.
Donc celui qu'on appelle à ce moment-là le petit monsieur a 18 ans. Et donc, il lui faut un rang de prince du sang. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui achète un château, c'est le château de Saint-Cloud, et on lui achète, en quelque sorte, une troupe de théâtre, comme tous les grands princes, tous les grands seigneurs. Et c'est ainsi que la troupe devient la troupe de Monsieur, frère du roi.
Alors, ce titre honorifique est un outil publicitaire considérable, hein, puisqu'il a le soutien de la principale personnalité politique après le roi Louis XIV. Et c'est ce qui va permettre à Molière d'avoir progressivement la possibilité de rencontrer la cour, de rencontrer ceux qui vont faire ensuite sa carrière.
Molière travaille alors à sa notoriété en fréquentant les salons. Ces cercles mondains ou galants, comme on les appelle, sont souvent tenus par des femmes et réunissent aristocrates, riches bourgeois lettrés et artistes de renom. C'est dans l'un de ces salons qu'il donne lecture en avant-première de sa pièce « Les précieuses ridicules ». Cette comédie met en scène deux précieuses trompées par des valets qui se font passer pour des hommes du monde. Elle ne va pas seulement révéler le talent de Molière au public parisien. Elle est le premier acte d'une véritable révolution théâtrale.
Il faut que je vous dise un impromptu que je fus hier chez une duchesse de mes amis que je fus visiter car je suis diablement fort sur les impromptus.
Le choc, ça a été que c'était la première fois qu'une comédie ne racontait pas les histoires sentimentales d'un jeune premier avec une jeune première, des intrigues stéréotypées. Et tout d'un coup, on voit le monde contemporain qui apparaît sur la scène.
L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit.
Même si c'est des caricatures, les jeunes filles, elles cherchent à se comporter comme des hôtesses de salon. Et les deux marquis, ils paraissent tout droit sortis des salons.